Nayri Boudet, sexothérapeute, pour cette nouvelle chronique, vous avez choisi un sujet qui touche le couple et qui interpelle.
Oui, en effet, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui du sentiment de solitude, qui est un sentiment que je crois tous les êtres humains ont déjà ressenti. Et je trouve que c'est important de pouvoir l'interroger, puisque souvent le sentiment de solitude, voire la crainte d'être seul, traduit un besoin de s'approcher des autres, parfois de s'accrocher aussi à l'autre. C'est l'occasion aussi peut-être de parler de ce qu'on appelle parfois dans le langage courant une dépendance affective. Donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui on puisse explorer tout ça.
La solitude, quel est le parallèle avec la sexothérapeute que vous êtes ?
Eh bien, parce que la sexualité, on en a souvent parlé dans nos chroniques, mais la sexualité est un moyen, comme d'autres d'ailleurs, de se lier à l'autre avec un grand A. Et donc, la crainte d'être seule ou le besoin de se rapprocher d'un autre, parfois slash souvent des personnes avec lesquelles je travaille, à avoir des relations sexuelles, non pas non désiré, mais en tout cas désiré à la base pour pouvoir être reconnu, ne pas être seul, être accompagné, créer un lien. Donc parfois, le désir de sexualité n'est pas souhaité en lui-même. Ce qui va être souhaité, c'est le désir de l'autre, le désir de compagnie. Et ce sont des personnes qui parfois n'arrivent pas forcément à exprimer que ce qu'elles cherchent n'est pas forcément de la sexualité, mais expriment en fait à travers leurs actes et leurs discours une peur réelle d'être seule.
La solitude peut-elle se vivre à deux ?
Oui et non. Je pense d'abord à la lune de miel. On a aussi souvent parlé de cette période de la vie conjugale où les personnes se rencontrent et sont dans une espèce de phase fusion-passion. Et des fois, même souvent, les personnes ont tendance à se couper un petit peu du reste du monde. C'est-à-dire on est seul ensemble, voire parfois seul, et il y a le reste du monde à côté de nous qui continue à exister, mais qui ne nous concerne pas quelque part. Donc c'est la première chose à laquelle je pense quand vous me posez cette question. Et puis aussi, bien sûr, le fait qu'on peut ressentir soi-même individuellement de la solitude, alors même que l'on est accompagné dans la vie. Et là encore aussi, on peut penser au fait de pouvoir se sentir seul au milieu d'une foule, c'est-à-dire sentir cruellement son individualité, sa vulnérabilité, alors même qu'on est entouré de plein d'autres personnes.
Est-ce que se sentir seul, c'est quelque part se sentir aussi abandonné ?
En tout cas, c'est souvent ce qui est exprimé. Oui, c'est se sentir seul, c'est avoir fait l'expérience du rejet, ou la crainte du rejet, ou tout simplement ça rend palpable la mésestime de soi que peuvent avoir les personnes. C'est-à-dire, si je ne suis pas accompagnée dans la vie, c'est que je n'ai pas suffisamment de valeur. Et là, on peut voir aussi que parfois, la société dans laquelle nous vivons n'aide pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'impensée qui est que les personnes qui sont seules ne dispose pas des compétences nécessaires pour être accompagnée dans la vie. Par exemple, je vais travailler avec des personnes qui ont une cinquantaine ou une soixantaine d'années, qui me disent qu'il y a un peu cette hypothèse souvent qui est faite, ou en tout cas ce questionnement. Oh, c'est bizarre, celle-là, pourquoi elle n'a pas de mec, celui-là, pourquoi il n'est pas casé, c'est que l'un ou l'autre doit avoir quelque chose de bizarre. Effectivement, bien sûr, nous vivons dans une société où il est beaucoup plus pénible pour les femmes d'assumer ce stigmate-là, ou en tout cas ce qui peut être perçu comme un stigmate, que pour les hommes qui, à la limite, peuvent être taxés de don juan, d'hommes qui cherchent la bonne, etc., là où il est vrai qu'il est beaucoup plus attendu des femmes, je dirais, qu'elles soient accompagnées, c'est-à-dire qu'elles fassent preuve du fait qu'elles sont désirables.
La solitude, c'est peut-être aussi l'incompréhension ?
Oui, effectivement. Pas mal de personnes avec lesquelles je travaille me font part d'un certain sentiment d'étrangeté par rapport au monde social, c'est-à-dire cette impression de ne pas véritablement comprendre ce qui se joue. Et ça peut être aussi des personnes qui ont certaines particularités, par exemple qui ont un trouble du spectre autistique ou des particularités mentales ou tout simplement des vécus traumatiques qui les conduisent à se sentir à l'écart. Je pense à une personne avec laquelle j'ai travaillé qui avait vécu des histoires très douloureuses dans sa vie et qui du coup me disait, alors qu'elle était plutôt jeune, dans la vingtaine, qu'elle ne savait pas si elle pourrait véritablement se lier à quelqu'un parce qu'elle se sentait très loin de ce qu'expérimentaient les autres jeunes de son âge. Donc, en même temps, la solitude était recherchée inconsciemment, c'est-à-dire que ça venait valider la mésestime qu'elle avait d'elle-même, c'est-à-dire le fait qu'elle pensait qu'elle ne valait pas le coup, et en même temps, ça avait quelque chose de rassurant. Parce que se confronter à l'autre, pensait-elle si différent, c'était aussi la renvoyer au fait que, justement, elle se sentait différente. Donc, cette solitude peut être aussi choisie dans le sens où il est espéré qu'elle soit rassurante. Mais c'est oublier qu'on a tous des vécus, alors peut-être pas traumatiques, mais tous des vécus qui nous conduisent à nous sentir seuls. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même caractéristique du genre humain. La crainte du rejet ou la peur d'être seule. Et comme je dis souvent, ce qui va changer, c'est un, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ne pas l'être, et deux, comment est-ce que ça va s'exprimer, cette crainte d'être seule.
Pour la sexothérapeute que vous êtes, il y a tout un travail qui est en profondeur parce que chaque personne que vous allez rencontrer est différente. La solitude va être perçue différemment. Comment est-ce que vous faites ?
En effet, c'est ça qui est véritablement passionnant en ce qui me concerne. Forcément, les personnes elles-mêmes ne le vivent pas forcément comme ça puisque c'est un problème pour elles, mais ça me permet aussi, moi en tant que thérapeute, de me renouveler sans cesse et de ne pas être tentée par le fait de mettre les gens dans des cases et d'être tentée aussi par cette prétention d'avoir tout compris. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des universels, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance et la peur de la solitude. Mais après, c'est, comme je le disais, qu'est-ce que j'en fais et comment est-ce que ça vient à s'exprimer ? Et forcément, comme nous avons tous des vécus différents, ça va prendre des formes différentes. Mais après, bien sûr que ça va se recouper sous la forme de différents symptômes dont nous avons déjà parlé. Par exemple, les troubles du comportement alimentaire ou bien tout ce qui est addiction. C'est évident, mais il y a tellement de manières possibles d'exprimer tous ces symptômes-là que finalement le symptôme en lui-même est peut-être un moyen soit de créer du lien avec les autres personnes porteuses du symptôme, soit une manière rapide de pouvoir parler de soi. Mais quand on est en thérapie, on va forcément aller chercher en profondeur. La simple étiquette ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, en tout cas ce que je vais travailler, c'est la manière dont les personnes vont percevoir leurs limites et ce qu'elles peuvent faire pour essayer d'aller au-delà.
Dans le domaine de la sexualité, la solitude, est-ce que parfois elle n'est pas vécue consciemment et volontairement ?
Alors, je ne sais pas si vous pensez à ça, mais moi, je pense immédiatement à ça, c'est-à-dire aux personnes qui, parfois, vont rechercher seulement leur plaisir dans la sexualité sans forcément chercher à partager avec leur partenaire. Oui, mais alors forcément, pour le partenaire en question, ça peut être une expérience qui n'est pas très agréable, voire franchement désagréable. On peut avoir l'impression d'être complètement objectifié et que la personne ne nous accorde pas sa pleine attention, ce qui est une réalité. Et en même temps, moi, en tant que thérapeute, ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qui va pousser la personne, justement, à avoir cette approche-là du corps de l'autre ou de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire que l'autre peut faire peur. De par ses nuances, de par sa complexité, et quelque part ça peut être beaucoup plus confortable de penser à soi. Aussi parce que, bon là pour le coup je pense aux hommes, beaucoup d'hommes ont quand même cette crainte importante de ne pas suffire à leur partenaire féminine, donc de ne pas assurer et de ne pas leur donner suffisamment de plaisir. Même si par ailleurs beaucoup de femmes disent aussi avoir eu des expériences avec des hommes qui n'avaient pas pris suffisamment soin d'elles. Je travaille avec énormément d'hommes qui me font part de leur crainte de ne pas être à la hauteur. Mais ce n'est pas parce que j'ai cette crainte-là que ça signifie que pour autant je suis véritablement ouvert vers l'autre. Enfin, ouvert à l'autre. D'ailleurs, plus je vais être dans la crainte, plus je vais être tournée sur moi.
Exactement, la solitude, c'est se refermer sur soi, hein. C'est une prison qu'on va sans doute forger autour de soi. De quelle façon la sexothérapeute que vous êtes arrive à trouver des brèches, arrive à s'en blesser, s'en heurter, arrive à cibler, à toucher ?
Mais je crois que j'aime bien aller vers la normalisation, c'est-à-dire que j'essaie toujours d'amener les personnes à conscientiser le fait que ce qu'elles ressentent, elles le ressentent pour une bonne raison. Et qu'il peut y avoir un défaut d'interprétation, mais il n'empêche que leur manière d'interpréter le monde, ça dit quelque chose d'elles, donc de leur vécu, de leurs craintes, de leur vulnérabilité et de leurs désirs. Donc la première chose que je fais toujours, c'est de dire « Ok, vous vous sentez seule, qu'est-ce qu'on peut en faire ?» C'est pas forcément quelque chose qui a à combattre. La solitude, c'est pas forcément rédhibitoire. C'est pour ça qu'on va faire la différence entre la solitude choisie et la solitude subie. Mais parfois, je pense qu'il est bon, en fait, de s'autoriser la possibilité de choisir la solitude choisie et de le travailler. Par exemple, je vais travailler avec certaines personnes dans le fait d'aller faire une rando tout seul. Pour certaines personnes, c'est un exercice qui est extrêmement difficile parce que ça les renvoie au fait qu'elles n'ont peut-être pas de compagnon ou de compagne, pas d'amis avec lesquels partager ce bon moment. Mais au contraire, je trouve que c'est un exercice passionnant, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois que je suis seule avec moi-même? Qu'est-ce qui peut être si exaspérant, intolérable, frustrant ou simplement désagréable dans le fait d'être seule? Si je me mets à penser, je pense à quoi? Si je suis dans ma voiture et que je ne mets pas la musique ou une conférence ou un podcast, ce que je fais moi-même très facilement, mais à quoi je pense quand il n'y a pas de bruit quelque part autour de moi? Et à quoi est-ce que ça me renvoie de moi? Et je pense que c'est un exercice nécessaire à faire pour avoir conscience aussi de qui l'on est, on va dire, pour aller vite.
À propos de la solitude du couple, est-ce qu'elle peut se rompre en parlant? Simplement, est-ce qu'on peut être amené à échanger et à peut-être entrevoir de nouveaux horizons?
Vous voulez dire le fait que parfois on puisse se sentir seul dans le couple? Je crois que c'est important de pouvoir faire ce chemin-là, de ne pas forcément attendre de l'autre qu'il vienne nous distraire. Des fois, je travaille avec des personnes qui me disent que leur compagnon ou leur compagne n'est plus suffisamment attrayant, qu'ils ne font pas assez de sorties, que c'est très plan-plan. Je comprends que nous vivons dans une société où, quelque part, il est attendu que nous vivions des expériences sur le plan individuel, mais aussi conjugal. C'est évident, quand on regarde les réseaux sociaux, que tout ce qui est vacances, surtout là, on est en été, que tout ce qui est vacances à deux, ça a son petit succès, ou en tout cas, ça donne envie aux personnes de le donner à voir aux abonnés, ben, c'est l'occasion en fait, de se demander pourquoi est-ce que je suis en couple et qu'est-ce que j'attends de cette relation. Mais en tout cas, si j'attends que l'autre soit celui qui me rassure quelque part que ma vie a de la valeur parce que je fais des trucs chouettes et marrants, à ce moment-là, il y a de grandes chances que je me tire une balle dans le pied parce que l'autre n'est ni mon clown ni mon amuseur en chef. L'autre, c'est une personne qui traverse ses propres difficultés aussi, qui a peut-être du mal à être incarnée et à entreprendre des choses. Et donc, si j'ai envie de passer du temps avec lui, c'est important que je puisse le verbaliser, justement. Mais pas forcément en lui disant « je me sens seule ». Mais voilà ce que j'ai envie de partager avec toi. Je pense à une personne avec laquelle je travaille qui me dit que son compagnon lui dit souvent qu'il est triste de ne pas passer suffisamment de temps avec elle. Ça peut être important, justement, si ce monsieur est véritablement triste, plutôt que de l'exprimer uniquement sous l'angle de ce qui le rend malheureux, d'être plutôt force de proposition de choses qui le rendraient heureux. Parce que le fait d'exprimer par la négative, ça conduit pour le coup à un sentiment de culpabilité qui, en fonction de la personne, peut amener à faire rejaillir la crainte de décevoir. Et donc peut-être même le fait que la personne va s'enfermer sur elle-même tellement elle craint de décevoir. Donc du coup, pour le coup, on se retrouve vraiment avec deux personnes seules qui pourtant avaient un projet qui était tout autre, c'est-à-dire d'être dans le partage. Donc je pense que c'est important, on parlait de normaliser tout à l'heure, de pouvoir exprimer en fait à quoi ça renvoie, ce sentiment de solitude. C'est pas tant je me sens seule avec toi parce que toi tu es méchant et que tu fais tes petites affaires sans tenir compte de moi. C'est-à-dire c'est plutôt à quoi est-ce que ça me renvoie moi de me sentir seule? Pourquoi est-ce que c'est si insupportable? Ou pourquoi est-ce que ça me rend si triste de me sentir seule dans mon couple? C'est de ça qu'il est important de pouvoir parler.
Avec les personnes que vous rencontrez, cette solitude, est-ce qu'elle fait partie d'un contexte actuel? Est-ce qu'elle est la même? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'il y a plus de personnes seules qu'avant? Est-ce que la solitude a toujours existé?
Alors, J'ai envie de vous répondre que c'est quelque chose qui a toujours existé. Il n'y a rien de plus universel que ce sentiment-là, de tout temps et en tout lieu. Néanmoins, il y a quelque chose qui est propre au développement des réseaux sociaux et d'Internet, c'est-à-dire ce sentiment de proximité et en même temps de distance qui est ressenti simultanément. De plus en plus de personnes parlent du fait qu'elles échangent via les réseaux sociaux avec des personnes, ou en tout cas elles peuvent recevoir des likes lors d'une publication, mais pas forcément d'une véritable attention en termes de chaleur humaine. Donc ça, je dirais que c'est peut-être plutôt propre à notre époque, et il y a pas mal de travaux de chercheurs en anthropologie et sociologie en ce moment qui sont produits pour essayer de, et en neurosciences également, qui sont produits pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça nous fait. De la même manière qu'on parlait de la pornographie la dernière fois d'ailleurs, c'est qu'est-ce que ça fait finalement à la conscience de soi, qu'est-ce que ça fait de se dire j'ai plein d'amis sur Facebook ou plein d'abonnés sur Instagram et pourtant j'ai l'impression que personne ne me connaît tel que je suis vraiment et donc je suis seule.
Nahiri, un grand merci, on se donne rendez-vous pour le mois prochain.
Merci à vous pour cette opportunité une nouvelle fois. Et puis, j'invite les personnes qui sont intéressées par ces réflexions et cette envie de mettre en pratique aussi pour se défaire de ce sentiment de solitude ou de la honte d'être seule. Je reçois à mon cabinet de sexothérapie, thérapie de couple et EMDR, à mes cabinets de Gap et Sisteron. Et pour les personnes qui le désirent, je suis joignable au 07 49 92 31 65.